Bonjour à tous, bienvenue sur Direct en Jeu. Aujourd'hui, nous sommes chez Jade, Jade Génin, à Paris, près de l'Opéra ou près des Tuileries. Et Jade, donc, est chocolatière. Chocolatière de naissance, presque, puisque tu es née dans un pot de chocolat ou dans une praline, ou encore dans quoi ? Bonjour Jade.
Dans l'atelier de mon père, qui est chocolatier, effectivement. Donc, c'est vrai que j'y ai passé énormément de temps. J'ai grandi là-bas et du coup, forcément, ça a impacté... mes envies, mon quotidien, et c'est pour ça, c'est ça qui m'a donné la passion de ce métier. Oui.
D'accord, d'accord. Et donc, quand tu étais petite, quel était ton chocolat favori ? Ton papa, est-ce qu'il faisait des chocolats pour enfants ou plus des chocolats pour adultes ?
J'ai jamais eu de chocolat favori, j'en ai toujours pas à l'heure actuelle. Je pense que ça dépend vraiment du moment, de l'envie, de la même manière que parfois on peut avoir envie... d'une salade ou de viande ou de pâtes, et ben dans le chocolat c'est pareil, il y a des fois on va avoir envie de quelque chose de très gourmand, d'autres fois quelque chose de très dur, de très fin, donc on a la chance de pouvoir décliner le chocolat selon nos envies.
Bien sûr, bien sûr. Et alors donc ici avenue de l'Opéra, pourquoi ce quartier du coup ? Pourquoi avoir choisi cette adresse ?
Alors, j'ai choisi le lieu plus que l'adresse. Donc, moi, je voulais un lieu où on ait la boutique et l'atelier qui soient attenants l'un à l'autre et qu'on puisse avoir des échanges entre les deux. Parce que finalement, souvent, les ateliers sont dissociés de la boutique et finalement, ce qu'on produit, on le fait pour les clients. Donc, c'est chouette, en fait, d'avoir un contact direct et permanent avec les clients, même si bien sûr je suis dans l'atelier avec mon équipe, mais ça permet d'avoir des échanges qui sont très fluides, parfois même sans avoir un échange direct avec le client, on peut entendre des réactions et donc ça c'est très chouette, parce que c'est avant tout pour échanger.
Bien sûr, bien sûr. Et donc du coup toi tu es entre l'atelier et la boutique?
Non, je suis tout le temps à l'atelier. Ouais, je suis tout le temps à l'atelier.
Et est-ce que les clients, justement, désirent te rencontrer ? Quand quelqu'un rentre, certains. Se dit, tiens, qui est Jade ?
Certains, bien sûr. Et c'est ça, tout l'avantage d'avoir l'atelier juste derrière la boutique, en plus d'avoir l'avantage de la transparence pour le client également. C'est aussi l'avantage, c'est de pouvoir aller au contact des gens. Donc ça, c'est très chouette.
Tout à fait. Et alors, les gens, donc, quand ils passent comme ça, donc avenue de l'Opéra, donc il y a pas mal d'autres boutiques, bien évidemment, dans le coin, qu'est-ce qui, a priori, les attire ? Est-ce que ce sont les petits, comment on les appelle ? Les pyramidions, qui sont un peu ta marque de fabrique. Ouais. C'est ce que tu as créé il y a combien d'années maintenant ?
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans,
oui. 2 ans, un peu plus. Un peu plus, on va dire 2 ans et quelques mois.
Et alors, pourquoi, du coup, cette forme ? Comment tu t'es orientée là-dessus ?
Je me suis orientée là-dessus parce que je voulais quelque chose qui donne un peu de hauteur à un écrin de chocolat. Mm-hmm. Souvent, quand on va regarder, c'est assez plat comme des tableaux et j'aimais bien le fait qu'il y ait une dimension. Donc ces pyramidions qui ont une forme donc de pyramide, des pyramides à 4 faces, ça va donner un rythme en fait visuel. Donc, je me suis orientée vers cette forme pour ça.
Ok, ok. Et donc, sur ces pyramidions, il y a aussi de la couleur. Absolument. Comment ça se passe quand on met de la couleur ou de la peinture, on va dire, qu'on peut manger effectivement sur des chocolats ? Ouais. Ça aussi, c'est peu commun. Ouais. Après, on va parler du contenu, donc des pyramidions. Mais déjà, les couleurs que tu vas mettre aussi sur d'autres choses, comme sur tes poissons, sur tes lapins, etc., de Pâques, par exemple. D'où est venue cette idée-là ? Parce que c'est depuis le début que tu fais ça également.
Oui, bien sûr. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, déjà, je trouve que la couleur, ça apporte beaucoup de vie, beaucoup d'envie. Mm-hmm. Et ça fait un peu danser le produit. Donc ça, je trouvais ça intéressant de ce point de vue-là. La deuxième raison, c'est que j'aime bien avoir des écrins de chocolat où les chocolats ont tous la même forme. Je trouve que ça apporte une sorte d'unité qui est assez élégante. D'accord. Et du coup, il faut pouvoir différencier un parfum d'un autre. Et du coup, on a recours... Chez nous, on a recours à la couleur plutôt qu'à la forme pour différencier le chocolat. Et ensuite, du coup, c'est un travail qu'on a développé avec pas mal de recherches. Donc aujourd'hui, notre peinture, on l'a fait avec des pigments alimentaires naturels. Donc ça peut être de la spiruline, du curcuma, du charbon, des mélanges savants qui ne sont pas faits par moi, hein, mais de radis, de pommes, de groseilles en poudre. Et que nous, on va intégrer dans du beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est la partie solide du chocolat. Mm-hmm. Le chocolat est composé de beurre de cacao et de cacao. Okay. si on distingue les ingrédients qui sont dedans. Et du coup, on récupère cette partie solide qui est donc sans cacao et qui est donc transparente. Alors, c'est pas clair comme de l'eau, c'est plutôt un peu jaune, mais c'est transparent.
D'accord.
Et dedans, on intègre nos pigments alimentaires naturels. Et ça va nous donner une peinture. Donc, c'est assez chouette même à voir parce que c'est vraiment de la peinture liquide, quoi. Donc,
Et donc, c'est un boulot, effectivement, de folie. Je le voyais, effectivement, sur tes lapins ou tes poissons, où tu disais, effectivement, dans une interview, que ça peut te prendre à peu près une demi-heure, voire plus, une heure quasiment par objet.
Ouais, c'est ça. En fait, ça prend une demi-heure par demi-lapin. Donc, il faut deux demi-lapins pour faire un sujet complet.
Bien
donc, c'est un boulot qui est assez long. C'est un boulot qui est assez long et puis en même temps qui est assez méditatif. Donc, nous, on aime bien le faire.
Tout à fait. Et alors, petite question. Par exemple, en Noël, tu avais sorti le crabe en or.
Ouais.
Et puis, à côté, je crois, c'était une fleur, c'est ça? Je
ne
sais plus.
Oui,
Et donc, pourquoi le crabe alors? Pourquoi la fleur? Pourquoi ça à Noël?
Alors, le crabe, c'était pour rappeler un peu l'opulence des dîners de Noël. Alors, je ne pense pas que ce soit la tradition partout, mais en France, c'est assez commun d'avoir des fruits de mer pour Noël. Ça peut être l'huître, ça peut être le homard, ça peut être le crabe. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'était pour reprendre un élément qui se trouve sur les tables de Noël, avec l'idée que cet élément, donc on l'avait fait dorer, on l'avait doré à la feuille d'or, donc il y avait quelque chose de très opulent et de très précieux à la fois, avec l'idée qu'on puisse un peu laisser ce crabe sur la table de Noël comme un élément qui nous accompagne pendant tout le repas, qui égaye la table de Noël.
Ouais,
c'est ça. Et qu'à la fin, on puisse, voilà, qu'à la fin, on puisse le déguster.
Et alors, ce crabe, justement, quand on est à 5, 6, 10 autour de la table, hop, on le coupe, clac, on le partage. Comment ça se passe?
Alors, on avait les pinces étaient détachées du corps, de la carapace, pour que ce soit facile à partager.
Okay.
Donc déjà, il y avait 6 pinces qui étaient indépendantes du corps. Donc ça, très facile à partager, sans casser le crâne. Et après, effectivement, la carapace, c'était... donc il y avait la partie haute et la partie basse, et chaque partie était une tablette une tablette très croustillante au riz soufflé. Donc ça, fallait y aller, comme ça. Fallait le casser, quoi.
D'accord. Et alors, parle-nous de tes jolis œufs là qu'on voit aussi. Donc c'était pareil pour la collection de Pâques, avec donc le présentoir, je sais plus comment tu l'appelles, où on met donc
les
piques,
des tiges en laiton.
Il y a les tiges en laiton, au-dessus il y a l'œuf ou bien la fleur, selon le modèle qu'on choisit. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que donc une fois qu'on a mangé ça, on peut nous-mêmes recréer, donc on peut reverser, on va dire, du chocolat fondu.
Absolument.
Et refaire la même chose que toi, en un peu moins bien probablement, avec des ingrédients plus basiques.
Oui, effectivement, une de nos pièces principales pour Pâques cette année, c'était une structure où on avait donc 11 tiges en laiton qui étaient plantées dans un socle en plexiglas, et au bout de ces 11 tiges en laiton, on avait 11 œufs pralinés, 11 œufs garnis de pralinés, et venaient décorer, et en plus sur ces œufs, ces 11 œufs à la main, on avait une petite pâquerette au centre. Et un moule qui avait été réalisé par une artisane bijoutière à l'échelle 1. Donc c'est un travail très délicat, la pâquerette est très fine et on dorait la pâquerette. Et du coup, ça donnait un peu sensation d'une éclosion de champ d'œuf, quoi, que moi j'aimais bien. Et comme on a cette très belle structure qui est faite avec des beaux matériaux, du laiton, je trouvais ça dommage que ce soit pas une structure un peu faite pour durer.
Bien sûr.
Et du coup, avec la structure, lorsque quelqu'un voulait sa structure, on offrait un moule, moule à sucette, fleur, et on pouvait réutiliser les bâtons à sucette en laiton avec le moule et reproduire chez soi la structure qu'on avait faite pour Pâques.
Magnifique. Bon, peut-être qu'effectivement, on aura le plaisir de revoir ça l'année prochaine, ou qui sait, avec ta grande créativité, tu sembles effectivement innover à chaque fois.
Oui, pour l'instant, j'aime bien.
Alors, on se demande d'où tu tiens cette créativité effectivement foisonnante quand même, puisque c'est que des choses très atypiques à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de choses aussi que tu vas peut-être garder, comme tes pralinés donc carrés, que tu appelles, alors qui ressemblent un peu à des joyaux, moi, je trouve, pierres précieuses, mais effectivement, avec cette forme-là.
Ouais.
Celles-là, c'était quoi? C'est des... Comment tu les appelles?
On appelle ça des cubes de pâte à tartiner à croquer.
D'accord.
Parce que, pour être tout à fait honnête, j'ai beau le chercher, je ne sais pas ce que c'est comme forme.
Une forme carrée, légèrement arrondie.
Pas trouvé de nom, en fait, malgré mes recherches. Bon, donc on appelle ça des cubes, même si, comme tu l'as dit, c'est pas tout à fait des cubes. et pâtes à tartiner à croquer parce qu'ils sont très crémeux. Mmh. Et du coup, leur
très texture... Très crémeux et quand même très praliné, un
exactement.
Peu croustillant.
Voilà. Et du coup, leur texture, à mon sens, évoque vraiment la pâte à tartiner, en fait. C'est mmh. comme si on avait de la pâte à tartiner garnie dans un chocolat.
Et ils sont très beaux avec ces couleurs donc bleutées, c'est un ça. Peu de vert, je crois.
Alors, les couleurs changent. Ouais. Là, c'est des couleurs qui sont plus printanières, estivales. Ouais.
La mer, déjà. Ouais, on a l'impression, en fait, de voir effectivement une mer devant soi.
Absolument, hein. Ouais. Et par exemple, pour Noël, ils étaient plutôt sur les tons de doré, blanc, noir. À la Saint-Valentin, ils étaient des déclinaisons de rouge. Enfin, voilà.
Très bien, très bien.
Donc, c'est un petit détail qui ne change pas, mais qu'on adapte en fonction des moments.
Tout à fait. Et alors justement, avec les beaux jours qui arrivent, et on le voit là, il fait beau et chaud presque aujourd'hui à Paris.
Trop chaud.
Les personnes, tu me disais, effectivement, les gens ont moins envie de chocolat absolument. L'été, donc oui. plus les glaces. En effet, on absolument. Voit toujours la queue absolument. Devant les glaciers. Mais comme tu le disais aussi, on peut quand même continuer à manger du chocolat.
Bien sûr.
Il suffit de prendre les mesures, on va dire, nécessaires pour ramener le chocolat chez soi et puis pour le conserver aussi.
Absolument.
Donc pour parler un peu conservation, on peut conserver un chocolat combien de temps ? Un chocolat comme ça, artisanal ?
Ça va vraiment dépendre de la recette. chez nous, on a une durée de conservation qui est assez courte parce qu'on n'utilise pas de conservateur et on n'ajoute pas de sucre. Et quand on utilise du sucre, ça va être des sucres non raffinés, type le rapadura, les sucres de coco, des choses comme ça, qui n'ont pas le même effet conservateur que le sucre blanc. Donc chez nous, on a une durée de conservation assez courte qui va de 2 à 3 semaines selon les produits. Mais chez un chocolatier artisanal, vous pouvez avoir des durées de conservation qui vont jusqu'à 6 mois. Ça va vraiment dépendre de la composition. Comme chez nous, elle est très simple et épurée, elle va être assez courte.
D'accord. Bon, et donc tes projets du coup pour les mois à venir ou pour l'année encore à venir, quels sont-ils ? Dans quoi vas-tu t'orienter d'un point de vue créativité univers ?
Voilà, c'est vaste comme question.
Sans trop en dévoiler, bien évidemment.
De toute façon, même si je voulais, je pourrais pas parce que je n'anticipe pas trop en fait, ce qui est un gros défaut,
mais effectivement, il faut avoir le temps de créer, puis ensuite de produire quelque part.
Donc,
il faut le temps de concevoir ces produits qui sont quand même techniques aussi.
Absolument. Mais quand on a, enfin, donc moi j'ai mon entreprise sans s'associer, donc j'ai 18 casquettes, et du coup, j'ai pas ce luxe que peut avoir par exemple un chef pâtissier de palace
De créer.
D'être dédié à la création. Évidemment, c'est un peu réducteur. Il y a aussi l'encadrement des équipes, la formation des équipes, s'assurer que tout va bien. Et l'encadrement est en soi une tâche qui prend un temps fou. Mais en tout cas, mon temps n'est pas dédié à 100% à ce rôle. Donc j'assure ce rôle, on va dire, de manière prioritaire. Mais après, j'assure tout ce qui est à côté dans l'entreprise. Donc dans mon cas, c'est la gestion de l'équipe de vente, la gestion des payes, de la comptabilité, de la communication, la gestion des réseaux sociaux. Donc en fait, ça impose aussi d'avoir une créativité plus efficace.
Oui, bien sûr.
Plus efficace, et du coup, je
donc quand d'un coup, tu as effectivement l'intuition et cette idée, ça t'arrive d'un coup, et puis bon, ensuite, on y va, quoi.
Oui, c'est ça, exactement. J'ai des durées de réflexion qui sont courtes et par contre assez intenses. Donc, je ne fais pas traîner trop les essais, des choses comme ça. Et par ailleurs, je trouve à titre personnel que c'est très difficile. C'est le cas de beaucoup de gens dans beaucoup de métiers. Même si on prend par exemple les calendriers de la mode, on va avoir le défilé printemps-hiver en plein été, et inversement. Donc
c'est difficile de se projeter toujours comme ça, 6 mois, voire un an.
Parfois c'est difficile, surtout sur des choses qui ont attrait. Alors, sans doute un créatif dans la mode nous dirait pareil, mais je trouve que pour quelque chose qui a attrait au goût et au manger, moi, naturellement, quand c'est l'été, j'ai envie de choses plus légères, plus fraîches. Et donc, comme c'est mon envie du moment, c'est difficile de me dire... je vais partir sur un truc au marron, parce que là, franchement, parler de marron maintenant, j'ai pas du tout envie. Alors que si là, je pars sur une création très fraîche, légère, aux agrumes, peut-être qu'arriver en... En hiver, je vais dire, ah ouais, non, pas du tout. Ah, ouais. bien sûr. Plus du tout envie d'agrumes.
Donc, c'est l'instant.
Donc, je fais au mieux pour pas non plus trop tarder, parce qu'après, effectivement, comme tu disais, il y a des impératifs de délai, commander le packaging, mm-hmm. Commander les moules, les parutions presse qui doivent s'anticiper, les choses comme ça. Mm-hmm. Mais j'anticipe le moins possible.
D'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup, dans tout cas. Et puis, on voit que tu es bien comme un poisson dans l'eau.
Absolument.
Si j'ai envie de dire. Voilà. Tu as retrouvé effectivement ton enfance, tes racines,
ouais.
puisque effectivement, on ne va pas re-rentrer dans le détail, mais tu avais commencé un autre parcours, et puis finalement, tu t'es dit, hop, absolument, je reviens à mes amours de jeunesse.
C'est Léa Salamé qui a fait un podcast qui s'appelle Femmes puissantes, et dans lequel elle disait que pour elle, une femme puissante, c'était une femme qui était alignée avec elle-même.
Bien
alors,
sûr.
Je ne sais pas si ça répond à la définition de la puissance. En tout cas, le côté aligné avec elle-même, il m'a vraiment fait... ça m'a vraiment évoqué quelque chose chez moi. Mm-hmm. Et c'est vrai que depuis que je fais du chocolat et donc que j'ai abandonné ma carrière d'avocate, je me sens vraiment alignée avec moi-même, comme si il n'y avait rien d'autre que je mm-hmm. puisse faire. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas le faire différemment de ce que je fais aujourd'hui.
Bien sûr.
Mais je ne me projette pas du tout. C'est inconcevable de me projeter dans un autre métier, mm-hmm. en fait.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est très agréable. Parce que pas dire que des fois, on n'est pas fatigué, qu'on n'a pas envie de se dire « Ah, j'aimerais bien partir 6 mois à la mer », mais comme tout le monde. Mm-hmm. Mais en tout cas, je ne conçois pas faire autre chose que ce que je fais actuellement.
Bien sûr, bien sûr. Bon, merci beaucoup. À très bientôt, Jade. Merci.